Centre chrétien évangélique d'Andrézieux a le plaisir de vous faire écouter des conférences publiques de différents pasteurs.
Ces messages ont été en bénédiction pour un grand nombre d'auditeurs et nous espérons qu'il en soit de même pour vous.
Vous pouvez venir écouter ces prédications en direct tous les dimanches à 10h et 16h30, ainsi que les mardis à 20h à l'adresse suivante.
Centre chrétien évangélique d'Andrézieux, 4 bis boulevard Jean Jaurès, 42160, Andrézieux-Boutéon.
Si vous désirez écouter d'autres conférences, vous pouvez les commander soit au comptoir de notre librairie, soit par téléphone au 04 77 36 67 45, en laissant sur notre messagerie vocale vos coordonnées et les numéros des conférences désirées.
Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente écoute.
Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais saluer les frères et sœurs qui sont de passage, ceux qui nous visitent, ceux qui sont là aussi pour la première fois. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez vraiment vous faire du bien dans la présence de Dieu. Soyez donc vraiment les bienvenus au milieu de nous. Je vous invite à ouvrir avec moi le deuxième livre des Rois et le chapitre 4 pour certains. Eh bien, c'est un texte qu'ils vont commencer à bien connaître par cœur. Nous avons commencé une étude sur cette histoire et tous les mardis soirs depuis maintenant, ça va faire la 8e partie et dernière partie maintenant, nous avons regardé cette histoire de ce miracle qu'il y a eu avec Élisée, Géasi et également cette femme qu'il a rencontrée. Alors j'ai commencé, je crois, sur les diapos, le texte à partir du verset 17. 15, voilà, mais je vais lire quand même à partir du début pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui ou qui sont de passage afin que vous compreniez bien cette histoire. Donc à partir du verset 8, deuxième livre des Rois, le chapitre 4 et le verset 8. Voilà, pour ceux qui cherchent dans ma Bible, c'est à la page 377. Je ne sais pas si vous, ça correspond à quelque chose. On va lire ensemble donc à partir du verset 8 et puis ensuite on prendra ensemble à partir du verset 15 sur l'écran. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il dit à son mari, voici, je sais que cet homme, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Faisons alors une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite Géasi. » Et Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme, on peut continuer sur l'écran, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis il fit seller son âne et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas fait connaître. » Alors, elle dit « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit ne me repousse pas, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi « Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Tsunamite ». Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils, et sortit. Amen. Quelle histoire particulière, n'est-ce pas ? Elle semblerait même irréaliste, hein, si certains ont des idées de scénario. C'est vrai que ça pourrait en faire partie d'une certaine manière. Je ne vais pas refaire ce matin tout l'arrière-plan de ce que nous avons vu depuis plusieurs semaines. Si vous êtes intéressé pour avoir le détail de tout ce que nous avons vu dans ce texte, eh bien, vous avez des cassettes sur l'étude d'Élisée et la Tsunamite qui sont à votre disposition. Il vous suffit simplement de les commander au comptoir de librairie. On va s'attarder simplement sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avons vu la semaine dernière que servir Dieu était une source de... On va la refaire, hein, juste pour que vous mettiez un petit peu... Servir Dieu est une source de... De bénédiction. Et ça, c'est une réalité. Le fait de servir Dieu, ça nous amène et ça nous propulse dans la joie, dans l'allégresse, et ça fait descendre sur nos vies la bénédiction de Dieu. Il y en a déjà, ils commencent à réfléchir et ils sont en train de se dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tiens, ce qu'on vient lire, c'est pas forcément la bénédiction. Servir Dieu est une source de bénédiction. Et Dieu nous demande d'être à son service. Nous avons vu la semaine dernière qu'est-ce qui avait pu motiver ce couple. Qu'est-ce qui avait motivé ce couple à servir Dieu d'une telle manière et finalement à entrer pleinement pour faire à Élisée une chambre, etc. et toute cette installation. Et nous allons voir ce matin que, après la bénédiction, eh bien il peut venir l'épreuve. Il peut venir des temps difficiles, des temps lourds, pesants. Et j'aimerais vous dire que nous allons voir aussi que l'attitude de cette femme sera vraiment particulière quand l'épreuve va s'abattre sur elle. Le premier point que j'aimerais aborder ce matin, c'est vivre l'épreuve. Parce que ce n'est pas parce que nous ne sommes croyants que nous ne vivrons plus d'épreuve. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens engagés avec Dieu que nous serons complètement démunis de tourments, de difficultés, d'oppressions. Premier point. Ce n'est pas parce que nous marchons fidèlement avec Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, sans péché. Est-ce que ça peut arriver que des chrétiens marchent fidèlement dans la sainteté, dans la pureté, sans péché ? Se tenir vraiment près de Dieu, ça peut arriver ou pas ? C'est peut-être difficile, mais ça devrait arriver. Bien sûr qu'il y a des moments où nous chutons, mais nous confessons nos péchés, nous demandons pardon, nous repartons. Mais il est évident qu'il peut, et nous trouvons dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, qui d'une certaine forme, sous une certaine apparence, en tout cas la Bible ne disait rien sur eux, n'avaient pas de péché. Et ils vivaient dans la vérité, ils vivaient dans la sainteté. Quand il est question de Job, c'est Dieu lui-même qui dit de Job qu'il était un homme honnête, fidèle, intègre. Si Dieu dit qu'il est intègre, ce n'est pas à nous de dire que c'est un pécheur. Dieu dit qu'il est intègre. Il suit les volontés et la voie de Dieu avec excellence. Est-ce que Dieu n'a pas vu Job lorsqu'il était aussi dans la souffrance ? Est-ce que Job n'est pas passé par des moments extrêmement difficiles? Alors ici, au verset 18, il nous est dit ceci. L'enfant grandit, et puis un jour, il est là vers son père, et il dit « Oh, ma tête, ma tête, ma tête !» Et là, un drame commence. Et la Bible nous explique tout simplement que le père va donner à son serviteur cet enfant, il va dire « Apporte-le à sa mère !» Et sa mère va recueillir cet enfant qu'elle aime, cet enfant qu'elle chérit, cet enfant vraiment qu'elle veut serrer, là, c'était inespérable pour elle qu'elle ait un jour un enfant, mais par la grâce de Dieu et le miracle de Dieu qui s'est accompli, parce qu'elle a rencontré un jour cet homme de Dieu, parce que toute cette histoire que nous avons lue jusqu'à présent s'est mise en place, l'action de Dieu a eu lieu, le prodige a eu lieu, elle a enfin ce qu'elle désire, cet enfant qu'elle aime, qu'elle chérit. Et imaginez, un enfant que vous attendez depuis des années et des années. Vous êtes maintenant vieux, avancé en âge. Finalement, cet enfant arrive. Et là, ça fait quelque temps que vous avez cet enfant avec vous, quelques années seulement. Et cet enfant est en train de tomber gravement malade. Quelque chose se passe. Il a mal à la tête. Il y a là quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie. Et c'est un drame qui est en train de commencer maintenant. Et cette mère, qui a tant désiré cet enfant d'une certaine manière, mais qui ne pouvait pas en avoir, elle va garder cet enfant avec elle, et sur elle, jusqu'à midi, elle va garder cet enfant jusqu'au moment où il va mourir. Et cet enfant va mourir dans ses bras. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé à ce moment-là. Peut-être que certains auraient pensé et dit « Pourquoi devrais-je vivre de telles situations ?» Dans des moments de tourment, d'épreuve, de douleur, il y a toutes sortes d'idées qui nous passent par la tête. On se dit « Mais si on marche avec Dieu, pourtant Dieu m'a béni, pourquoi je passe alors par un tel problème ?» Et puis souvent on pense que si on fait la volonté de Dieu, alors on n'a certainement pas de difficultés. Comme on est dans la volonté de Dieu, alors forcément, on ne pourra jamais passer par un tel événement. On ne pourra jamais passer par un tel deuil, par un tel drame. Et reprenez les histoires bibliques de quelques personnages. Regardez Noé, il n'était pas intègre. Et combien a-t-il souffert également? Regardez Gédéon, regardez les disciples à la Pentecôte. Regardez Pierre, lorsqu'il est en prison. Regardez Jacques, lorsqu'il est décapité. Regardez l'apôtre Paul. Si lui ne suivait pas la volonté de Dieu, alors personne ne le suivait. Cette volonté de Dieu. Mais il marche dans les voies de Dieu, il veut accomplir sa volonté, et pourtant dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8, il dit à un moment donné, nous avons été excessivement accablés, que nous désespérions même de conserver la vie. Et il dira, nous avons été éprouvés au-delà de nos forces. Souvent, on entend souvent ce verset où il est dit « Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces ». C'est vrai. Mais la tentation et l'épreuve sont pour moi deux choses différentes. Nous pouvons être tentés, ou plutôt, Dieu ne nous tente pas, c'est vrai, au-delà de nos forces, parce qu'il ne s'amuse jamais à nous tenter pour jouer. Et quand la tentation arrive et qu'il permet la tentation par l'ennemi de notre âme, il la permet parce qu'il sait que nous pouvons y résister. Si nous y résistons pas, c'est qu'alors il y a des failles dans notre vie. Mais il ne n'ira jamais comme un jeu à dire « Tiens, je vais envoyer la tentation pour voir comment il va tomber. » Dieu n'agit pas de cette manière-là. Par contre, l'épreuve, c'est une autre chose. Et nous pouvons parfois être éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et il suffit simplement de regarder parfois autour de nous combien d'amis, d'hommes, de femmes, de familles sont parfois éprouvés et ils ne supportent plus cette épreuve. Pourquoi? Et on le voit. Ils tombent dans la dépression, ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus, ils ont du mal à se relever. C'est pour eux une situation qui devient impossible. Et vous avez beau leur essayer de leur donner des paroles de réconfort, c'est très difficile. C'est très difficile. On a l'impression que ces paroles ne produisent rien dans notre cœur. Et c'est vrai que pour certains, l'épreuve est comme une occasion de chute, une pierre d'achoppement, une occasion de découragement.
les épreuves, les difficultés, les décès, les accidents, je dirais, sont tout simplement inhérents à la vie. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour souffrir. Les incroyants souffrent terriblement aussi. Et le pire pour eux, c'est que très souvent, ils n'ont même pas à côté d'eux ce soutien qui va pouvoir leur permettre de garder la tête haute et de se sortir de la situation dans laquelle ils sont tombés. Mieux vaut vivre dans l'épreuve, écoutez bien, mieux vaut vivre dans l'épreuve avec Dieu que sans épreuve et sans Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi et il connaît toutes choses. Je ne sais pas ce que cette femme a pu penser à ce moment-là, mais ce que je sais, c'est qu'elle n'a pas perdu son courage. Elle n'a pas perdu son sang-froid. Elle a démontré des qualités humaines, mais aussi des qualités spirituelles extraordinaires. Elle a montré qu'elle était capable de gérer cette situation. Pourtant, il y a un certain degré de souffrance, on va y revenir tout à l'heure. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit la teneur spirituelle d'une personne. Quand tout va bien, c'est facile de jouer aux chrétiens, de faire le croyant qui se porte bien et qui n'a pas de soucis. Mais quand l'épreuve est là, quand les difficultés sont là, c'est à ce moment-là que nous voyons combien nous avons une maturité spirituelle et combien nous sommes capables de tenir la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au verset 21, il est dit, « Elle monta, le coucha cet enfant sur le lit de l'homme de Dieu, elle ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Quel courage! Quel courage parce que d'abord confrontée à elle-même, confrontée à sa vie, confrontée à ce qu'elle voit, confrontée à cet enfant qui est là en train de mourir dans ses bras. Elle le garde toute la matinée. Et il n'y a aucune parole où elle s'en prend à Dieu. À aucun moment elle commence à élever la voix contre Dieu en disant « Mais pourquoi tu permets ceci ? Et pourquoi je suis dans cette situation ? Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ?» Le mot « pourquoi » avec Dieu est souvent un mot à bannir. Pourquoi ? Là, on peut le dire. Parce qu'on n'a très souvent pas la capacité intellectuelle de comprendre ce que Dieu fait dans notre vie. Parce que nous, nous voyons à très court terme. Or, Dieu voit beaucoup plus loin que nous. Et lui, il connaît les pourquoi, les comment. Il sait pourquoi il prend telle ou telle décision. Mais nous, très souvent, on ne sait pas pourquoi. Et très souvent, on entre dans un cercle vicieux. Lorsque nous nous trouvons dans l'épreuve et que notre seul réconfort, c'est d'attendre la réponse au « Pourquoi Dieu tu fais ça ?» ou « Pourquoi Dieu tu permets cela ?» Et je trouve des frères, des sœurs, des amis qui très souvent restent finalement dans leur souffrance, restent dans leur épreuve, restent dans leur difficulté parce que la seule chose qu'ils attendent c'est « Pourquoi ?» Mais Dieu n'a pas besoin de se justifier. Il est le roi des rois et le seigneur du seigneur. Lorsque notre fille a été atteinte de la leucémie et que les médecins nous ont annoncé qu'elle allait mourir d'ici peu de temps parce que finalement il n'y avait rien qui pouvait la soigner, on n'a pas perdu notre temps à chercher « Pourquoi, Seigneur, tu permets cela ?» Mais on a vu à travers la maladie de notre fille que l'ennemi cherchait à l'atteindre. Alors on a commencé à lutter dans le nom de Jésus contre ces puissances des ténèbres qui voulaient tenir notre fille. Jusqu'à ce que les puissances des ténèbres la lâchent et que la victoire interviennent, au point où les médecins ne comprenaient pas et ne savaient pas de quelle manière l'infection dans le sang généralisée était venue, ni de quelle manière cette infection était partie. Mais nous, on croyait. On savait que Dieu était vivant. Mais si pendant cette semaine, nous avions perdu notre temps en disant « Seigneur, mais pourquoi ?» et puis à pleurnicher, et puis... Ça ne veut pas dire que nous étions pas dans la souffrance. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de souffrir. Bien sûr que si, on a le droit de souffrir. Et ça, c'est une autre question à laquelle on va revenir. Mais on savait que Dieu était capable d'accomplir un prodige et un miracle. Alors cette femme ici, elle démontre un grand courage. Et puis après, c'est avec son mari. Parce que là, un dialogue s'engage. Quand vous vivez une situation difficile, mais que vous gardez tout pour vous-même, c'est une chose. Mais quand vous rencontrez une autre personne, et que là, il faut commencer à parler, c'est plus difficile. Parce que les émotions, les sentiments sont là, vous êtes dans cette situation terrible, je rappelle que cet enfant vient de mourir. Et il est dit au verset 23, son mari lui dit, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers cet homme de Dieu? Ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas...
Bon, lui, il n'est pas très créatif, hein. Il va pas bien loin dans sa réflexion. Il va pas savoir si l'enfant, il a tel problème, telle difficulté. Ce qui est quand même très particulier, c'est la réponse de cette femme. Elle vient de déposer dans la chambre haute cet enfant sur le lit et mort. Et elle dit à son mari, tout va bien. Soit elle a perdu la tête, soit elle est devenue folle, soit elle a cette foi. Cette foi et cette confiance en ce Dieu extraordinaire qui la garde et qui la préserve dans la paix de Dieu. Et elle sait où est la solution. Elle ne va pas perdre de temps à aller chercher à droite ou à gauche. Elle va aller directement là où elle croit que la solution existe. Il faut qu'elle rencontre cet homme de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand, écoutez bien, dans notre vie, nous nous trouvons à l'instar de cette femme ou dans d'autres situations, dans la tempête, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans les soucis, quand dans notre vie nous nous trouvons dans cette situation, que ce soit devant la mort ou devant une situation sans retour, problème familial, social, matériel, financier, tout ce que vous voulez. Quand nous réalisons personnellement que nous en sommes là, parce que c'est une conséquence directe, soit de nos erreurs, de nos mauvais désirs, de nos mauvaises actions, de nos mauvaises paroles, parce que c'est notre propre volonté, parce que c'était notre propre décision, parce que nous n'avons pas écouté totalement ou obéi totalement à la voix de Dieu, et qu'alors nous nous trouvons dans une situation difficile, pénible, douloureuse. À ce moment-là, il est très très difficile de surmonter de tels moments. C'est très très difficile de recevoir la paix de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans ton cœur, ta conscience, elle crie. Et elle est en train de crier, mais si tu en es là aujourd'hui, mais c'est à cause de toi. C'est de ta faute. C'est à cause de tes décisions, c'est à cause de tes mauvaises orientations, c'est à cause de ta désobéissance, c'est à cause de ton péché, c'est à cause de tout ce que le diable pourrait nous reprocher. Et parfois Dieu lui-même. Et dans cette situation, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Le cœur de l'homme, il s'endurcit. Parce qu'on ne veut pas avouer que nous sommes dans cette situation à cause de notre situation personnelle, de notre décision personnelle, de notre engagement personnel, de notre vision personnelle. Alors notre cœur s'endurcit, il devient dur. Mais quand nous nous trouvons dans une telle situation de tempête et d'épreuve, et que nous savons que c'est Dieu qui l'a permise pour un temps, tout simplement qu'elle n'est pas dépendante de nos actions ou de notre volonté, mais que Dieu l'a permise, pour notre édification peut-être personnelle, pour notre maturité spirituelle, alors à ce moment-là, quelle confiance! Quelle confiance et quelle sérénité, quelle espérance nous pouvons alors avoir en ce Seigneur. Car même si nous ne comprenons pas ce que Dieu permet, nous pouvons être sûrs qu'il s'occupera de nos vies et qu'alors, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ça ne veut pas dire que si ce matin tu te sens dans cette première situation, ou tu es dans une situation difficile, à cause de tes décisions, à cause de tes orientations, que tout est fini. Non. Il faut faire en sorte que ton cœur maintenant ne s'endurcisse plus. Il faut que tu confesses tes péchés, tes fautes. Tu demandes pardon à Dieu et que tu réclames sa grâce. Il y a des situations pour certaines personnes pour lesquelles je ne prie plus. Vous savez pourquoi ? Parce que la personne sait quel est son problème. Mais délibérément, elle a la volonté de ne pas vouloir le régler. Ça n'a rien de perdre du temps, hein. Et de l'énergie. Quand vous avez quelqu'un qui ne veut pas, ben, ma foi, elle reste dans sa situation. Et il y a des personnes, malheureusement, qui sont comme ça. Vous avez des personnes qui ne veulent pas changer. Vous avez des personnes qui savent que la situation dans laquelle elles se trouvent, et c'est pour ça que nous avons besoin de discernement. Parce que le diable utilise ces choses pour que nous perdions du temps. Pour que l'église perde du temps. Pour que les frères et sœurs perdent du temps. Parce que ces personnes-là, très souvent, elles vont voir les uns les autres, elles commencent à se plaindre, elles se font passer pour de pauvres victimes. C'est difficile, c'est douloureux, regardez. Et nous, bien sûr, on les voit dans cette situation. Et on est compatissant de les voir dans cette situation de souffrance et de douleur. On n'est pas insensible. Mais quand on commence peut-être à discuter avec la personne, et que Dieu nous donne ce discernement, et qu'on commence à voir, parce que la personne souffre parfois, que le problème vient de telle et telle situation, et qu'alors on dit à la personne, mais tu vois, ça vient de telle et telle situation, peut-être il faudrait que tu apportes cette situation au Seigneur. Et vous entendez une réponse en disant, non. Non, non, ça c'est du passé, c'est une chose passée, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus maintenant. Regarde, c'est mon problème de maintenant. Oui, mais ton problème de maintenant, c'est une conséquence directe de ce que tu as vécu dans ton passé. Donc c'est ton passé qu'il faut commencer à régler pour que la conséquence directe disparaisse. Et quand vous avez des personnes qui s'entêtent et qui s'opposent et qui disent non, de toute façon c'est pas comme ça, on ne peut pas aller au-delà de ce que la personne veut. Alors ma foi, après elle se débrouille. Mais Dieu soit béni pour ceux et celles qui peut-être un temps ont laissé leur cœur s'endurcir, mais qu'à un moment donné ils ont compris que si devant Dieu ils abdiquaient maintenant, s'ils cédaient devant le Seigneur, Dieu allait leur faire grâce, parce que Dieu les aime, et que Dieu allait les changer, il allait les transformer, et la conséquence qui est douloureuse, il allait la transformer en joie et en allégresse pour sa gloire. Quand nous comprenons cela, alors nous cédons devant l'amour de Dieu, et nous disons, Seigneur, fais dans notre vie ce que tu veux. Cette tsunamite, cette femme, elle savait que cette situation ne venait pas d'elle. Elle la vit, elle la subit avec confiance et assurance. Et comme je le disais tout à l'heure, malgré sa douleur, parce que cette femme, elle souffre véritablement. Elle est véritablement dans la souffrance. D'ailleurs, l'expression de sa souffrance, c'est justement de la cacher. Il y a plusieurs manières d'exprimer une souffrance. Vous avez des gens qui sont très expressifs, et dès qu'ils souffrent, vous en rendez compte. En tout cas, vous l'entendez. Et puis, il y en a d'autres, leur expression, eh bien, c'est justement de ne rien dire. Tout est vécu intérieurement. Ils disent rien. Gardent tout. Et c'est comme ça que très souvent naissent les ulcères, d'ailleurs. Et cette femme, elle est là, elle garde tout. Même à son mari, elle n'exprime rien. Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Tout est en ordre. Votre fils vient de mourir, mais ce n'est pas un souci. Elle est dans la souffrance. Et là, j'aimerais juste dire une chose. Parce que dans le milieu chrétien, la souffrance a trop souvent été bafouée. On a interdit aux chrétiens de souffrir. Ça, c'est un héritage religieux aussi. Non, si tu es chrétien, si tu es croyant, si Christ marche avec toi, tu n'as pas le droit de souffrir. Et c'est comme ça que nous avons vu des attitudes aberrantes. Ou même lors d'enterrements. Nous entendions des gens presque dire qu'ils se réjouissaient de ce qui leur arrivait. Excusez-moi, mais quelle stupidité, quelle bêtise humaine. Parce que la souffrance fait partie de nos émotions et de nos sentiments. Et Dieu la permet. Et aujourd'hui, tout croyant et tout chrétien a droit à la souffrance. Et à l'expression de la souffrance. Et ce n'est pas parce que tu vas la cacher que finalement ça va régler ton problème. Et que dans 10 ans tu vas te sentir mieux. Je connais des gens qui pendant des années ont caché leur souffrance suite à un événement pénible qu'ils ont vécu. Mais 10 ans plus tard, ils sont toujours dans l'incompréhension. Et 10 ans plus tard, ils sont toujours dans la crainte et dans l'angoisse. Et 10 ans plus tard, ils sont toujours bloqués dans leur cœur, ils sont toujours fermés. Il y a toujours un problème qui est là, ils n'arrivent pas à se sortir de cette situation. Et continuellement, ils pensent à ce qui s'est passé 10 ans avant. Pourquoi? Parce que justement, on leur a dit, oulala, vous êtes chrétien. Vous devez faire bonne figure. Vous devez avoir l'apparence de quelqu'un qui ne souffre pas, et qui, dans la joie de Dieu, vit avec beaucoup d'allégresse tout ce qui lui arrive. Je pense que ces amis-là et ces responsables religieux devraient relire la Bible. Parce que même Jésus, devant son ami Lazare, la Bible nous dit, il s'est mis à pleurer. Il était dans la souffrance, il était dans la peine, il était dans cette situation pénible d'avoir vu son ami partir. La souffrance, c'est un droit. Tu as le droit de souffrir. Et j'ai vu des gens, 10 ans, 15 ans plus tard, prendre le droit de souffrir. Et finalement, d'évacuer totalement des situations du passé. Évacuer, il faut qu'elles sortent de votre cœur. Et parce qu'ils ont commencé à se mettre à parler, à exprimer, parce que les larmes ont commencé à tomber, alors leur cœur, parallèlement, a commencé à se vider, à se vider. Et à se vider. Et parce que leur cœur a commencé à se vider, vous savez ce qui s'est passé? Dieu alors
a pu commencer à les remplir. Et Dieu a pu commencer à les remplir de sa paix, de sa joie, de son allégresse. Il a pu leur donner ce qui leur manquait depuis le début, la consolation. Comment vous voulez remplir un vase qui est plein? Si tu es plein d'amertume, plein de souffrance, plein de crainte, plein d'angoisse, plein de douleur, comment peux-tu recevoir au fond de ton cœur la paix et la grâce que Dieu veut te donner? C'est impossible. Commence à évacuer, c'est logique ce que je dis, hein. Commence à évacuer cette souffrance, commence à évacuer cette angoisse, commence à évacuer cette inquiétude. Commence à vider ton cœur complètement et tu vas voir de quelle manière Dieu, par sa grâce et par son amour, il va ensuite te remplir. Et en te remplissant, il va te guérir. Et ce qui était les souffrances du passé va commencer à disparaître. Dieu est le libérateur. Il est l'Éternel qui guérit. Alléluia. Peut-être tu oublieras tout de ce message, mais il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes maintenant. Tu as le droit de souffrir et tu as le droit d'exprimer ta souffrance afin d'en être libéré pour que Dieu te donne maintenant sa paix, sa consolation et sa joie. Amen. Deuxièmement, nous voyons donc cette femme maintenant réagir face à l'épreuve. Et c'est vrai que cette femme va agir d'une manière vraiment remarquable. Elle part à la rencontre du prophète et il la voit de loin, et puis il va dire, il va envoyer Gehazi, il va dire, mais va voir cette femme et demande-lui comment elle se porte, comment va son mari, comment va son enfant. Et la même réponse. Bien, tout baigne, il n'y a pas de problème. Et la Bible nous dit que Dieu va même cacher cette situation à Élisée. Mais Élisée va discerner que l'âme de cette femme est dans l'amertume. Parce que lorsque cette femme arrive, elle se prosterne là à ses pieds. Et elle embrasse ses pieds. C'était une attitude qui, à l'époque, sur un prophète de Dieu, ne se faisait pas. Et là, nous voyons deux attitudes d'hommes complètement différentes. Nous avons d'un côté Élisée, et de l'autre côté, nous avons Gehazi. Et alors qu'elle est là, qu'elle se prosterne, l'un va la repousser, tandis que l'autre va lui dire, laisse faire, parce que son âme est dans la souffrance. Dieu me l'avait caché. Il n'y a pas la même teneur spirituelle. Et cette femme va utiliser les mêmes propos que la première fois. Elle va se reporter à ce qu'elle a dit au tout départ. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et à cette parole, Élisée sait que quelque chose de grave vient de se passer. Alors dans la précipitation, il veut envoyer Gehazi avec l'ordre de poser son bâton sur le corps de cet enfant. Mais là nous voyons une détermination. Cette femme, elle ne permet pas simplement que Gehazi parte avec le bâton. Parce qu'elle sait que ce n'est pas suffisant. Et nous allons voir la différence qu'il y a entre Élisée et Gehazi dans un instant. Mais cette femme, elle dit non, c'est toi que je veux. Tu descends dans la maison. L'homme de Dieu, c'est toi. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes là. Et des fois, c'est vrai, il y a besoin d'assistance. Et pour elle, ici, c'est une persévérance. Il y a une véritable volonté. Elle aurait pu se contenter du bâton de Gehazi qu'il tient dans la main et qu'il va poser sur le visage de l'enfant. Elle aurait pu repartir. Et le résultat aurait été terrible. Et la souffrance aurait été accentuée. Mais dès le départ, elle ne se contente pas d'une demi-mesure. Elle dit, je veux l'homme de Dieu. Je veux voir cet homme de Dieu, je veux que cet homme de Dieu y descende. Je veux que ce soit toi qui vienne. Il y a deux actions et il y a deux attitudes différentes. Regardez Gehazi. Au verset 31, il est dit ceci. Gehazi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Arrêtons-nous simplement quelques instants sur l'attitude de cet homme. Ce garçon, Gehazi, il n'a absolument pas la trempe d'un homme de Dieu. Il n'a pas les qualités d'un homme de Dieu. Il lui manque quelque chose vraiment d'important. Pourtant, il est dans le sillage d'un homme de Dieu extraordinaire. Il a vu des prodiges, des signes et des miracles s'accomplir d'une manière extraordinaire. Il en est à son sixième bientôt. mais il lui manque quelque chose. Il ne prie pas dans cette situation. La Bible nous dit que tout de suite il va repartir. Il ne demande pas à Dieu ce qui se passe. Il pose simplement le bâton, il ne persévère aucunement, et par conséquent le résultat est nul. On s'en compte de quoi ? Gazi n'est pas à la hauteur. Et je dirais, c'est sa vie qui n'est pas à la hauteur. Parce que son cœur n'est pas tout entier à Dieu. Ou pour l'instant, ça ne se voit pas. Et dans les chapitres précédents, ça ne se voyait pas trop. Il y avait quelques signes avant-coureurs, mais il n'y a rien qui se laissait vraiment montrer d'une manière évidente. Mais son cœur n'est pas tout entier à Dieu. Il n'a pas de bon mobile en lui. Il n'a pas de bons sentiments. Et pour l'instant, tout est caché. Rien ne se laisse entrevoir. Mais un jour, ça va ressortir. Dans le deuxième livre des Rois, le chapitre suivant, chapitre 5, et au verset 26, avec Naaman. Et on va se rendre compte, à partir de là, que cet homme va succomber à la cupidité et au mensonge, et il va devenir lépreux. Finalement, on pourra conclure, et on pourra remarquer tout simplement que toute sa vie était parsemée de signes avant-coureurs. Il y avait des choses qui pouvaient nous laisser croire que, mais il n'y avait rien de défini, il n'y avait rien de véritable. Il n'y avait rien de certain. On pense que, on imagine que, mais c'est difficile d'avoir une, même de prendre une décision sur un individu avec simplement de tels signes. Mais les choses vont se mettre en place. C'est vrai qu'on aurait pu penser, pourtant il avait des réactions étranges. Il avait des attitudes étranges. On se rend compte qu'il n'était pas toujours spirituel. Et on aurait pu émettre quelques doutes à son sujet. Mais c'est difficile d'être confronté à cette réalité. Parfois c'est très sournois. C'est un petit peu comme cette parabole que le Seigneur va nous donner dans Matthieu 13, 24 quand il va parler du blé et de l'ivraie. Et ce blé et cet ivraie qui montent ensemble, qui poussent ensemble. Et les serviteurs de Dieu vont dire à un moment donné, mais il faut couper tout ça. Non, 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 il dit surtout pas, le Seigneur ne coupe pas, tu sais pas ce que tu vas couper. Laisse croître, laisse grandir. Et puis, dans quelques temps, tu vas voir la différence. Ça, ça nous enseigne. On rencontre parfois dans l'église de telles personnes. Elles passent pour être des personnes très spirituelles, très fraternelles, très sympathiques, consacrées aux choses de Dieu. Mais en fait, leur cœur n'est pas sincère. Parce que la roue, ils l'atteignent, a déjà commencé leur travail. Et en apparence, ce sont des gens formidables à l'intérieur, ils sont véreux. Ils ne sont pas honnêtes, francs, sincères, droits. Ils savent même que plusieurs idées qu'ils ont les différencient foncièrement d'avec d'autres frères et sœurs. Alors, ils les dissimulent. Ils vont même jusqu'à choisir ceux à qui ils vont en parler, par crainte de ne pas avoir certaines représailles. Tout cela comme seul objectif, de faire passer leurs idées. Faire passer le fait qu'ils ont tout simplement raison. Mais tout cela est grave. Et la Bible nous dit, c'est pour cela qu'il faut veiller à ce qu'il y a dans nos cœurs, à ce qu'il y a dans nos vies. Et c'est vrai qu'on peut avoir parfois quelques présomptions, on peut avoir quelques suspicions, même si Dieu nous demande de ne pas en avoir, mais contre les choses mauvaises qui sont amenées à détruire l'œuvre de Dieu, la Bible nous dit de faire attention et de veiller. Et nous devons veiller sur le troupeau, afin que les brebis ne soient pas arrachées, qu'elles ne soient pas volées, qu'elles ne soient pas torturées, qu'elles ne soient pas détruites. Mais très souvent, on est obligé de laisser pousser le blé avec l'ivraie. Et au bout de quelques mois, au bout d'un an, deux ans, trois ans, parfois plus, parfois beaucoup moins, eh bien, les choses s'éclaircissent et on se rend compte de ce qu'est véritablement la personne. La Bible nous dit, parce que nous pouvons tous tomber dans ce piège-là, veillons à ce qu'il y a dans notre cœur. Faisons attention à la manière dont nous voyons les choses. Ça me fait penser à cette histoire qui s'est passée au Canada. Il y a un frère du Canada, là, que Dieu le bénisse. Et je ne sais pas s'il a entendu parler de cette histoire, mais il y avait, paraît-il, un érable magnifique, gigantesque, un arbre immense. Et il avait déjà surmonté à des quantités de tempêtes. Jamais il avait bronché. Et puis un jour, au grand étonnement de tout le voisinage et de la population qui était là, cet arbre qui avait quelques centaines d'années, eh bien, il s'est retrouvé par terre, couché sur la route, alors qu'il n'y avait pas un brin de vent, rien. Et quand les spécialistes sont arrivés, ils ont regardé au cœur de l'arbre, et l'arbre était véreux. Il avait été complètement mangé par toutes sortes de bestioles, et il ne pouvait plus tenir. L'apôtre va dire ceci aux Hébreux, veillez. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et le verset suivant. Et dans Proverbe 4, 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. D'où vient la vie véritable? De ton cœur. Et c'est pour ça que Dieu dit, il faut le garder. Je vais bientôt terminer. Élisée, lui, réagit complètement différemment. Élisée, quand il entend cette situation, il suit cette femme. La Bible nous dit, il entre là dans la maison, il entre dans la chambre. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre tout simplement dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il ne demanda pas que Gazi soit avec lui. Il ne demanda pas que d'autres personnes soient avec lui. Non, tous les deux. L'enfant et lui. Il entre dans l'intimité avec Dieu. Il ne se met pas aux yeux de tout le monde, mais il se met à l'écart. Et il cherche le contact avec Dieu. Il prie l'Éternel. La Bible nous dit, Matthieu 6, 6, qu'est-ce qu'il est dit? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous ne sommes pas là toujours pour faire du spectacle. Nous sommes là pour apprendre à entrer petit à petit dans l'intimité avec Dieu. Et là c'est vrai, il y a une attitude étonnante. Verset 34, il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant commença à se réchauffer. Quelle image! Ça, c'est l'image de la prière fervente. C'est l'image de la prière sincère. C'est l'image de la prière bouillante qui suscite la foi et s'attend véritablement à ce qu'à un moment donné, la foi soit exaucée. Donc il y a du résultat. Quand nous prions, c'est une image qui est donnée, mais nous devons apprendre à faire corps avec la personne. Nous ne devons plus prier avec légèreté, avec superficialité. Et dans certains cas, on ne réalise pas toujours la douleur, la souffrance, l'épreuve que l'autre est en train de passer. Et la souffrance qu'il y a là au plus profond de son cœur. Nous devons apprendre à nous identifier. Et c'est ce que la Bible nous dit. Je n'ai pas le temps de faire une étude sur la prière maintenant, mais la Bible nous dit que quand nous prions avec conviction, la Bible nous dit que c'est avec tes tripes. C'est avec ce qu'il y a intérieurement. Tu t'identifies à la souffrance de la personne et tu combats avec elle. Et la Bible nous dit que l'intercession, c'est combattre jusqu'à soi. Tu sois fatigué? Non. Jusqu'à ce que tu aies la victoire. Et nous avons besoin d'apprendre dans nos réunions de prière le jeudi soir et à d'autres moments dans notre vie de prière personnelle ou ceux qui sont engagés dans la sentinelle de prière et qui prient une heure par semaine, nous avons besoin de nous identifier au sujet, nous avons besoin de nous identifier au problème, à la situation pour faire corps avec cette situation et crier à Dieu. Il n'y a pas plus motivé que celui qui est dans la situation et qui a besoin d'aide. Et très souvent les gens sont déçus, pourquoi? Parce que celui qui crie qui a besoin d'aide, nous, parfois, qui venons après, nous n'avons pas le même zèle, la même motivation, le même courage. Mais si nous nous identifions à la personne qui souffre, et nous réalisons sa souffrance, alors nous allons prier avec beaucoup plus de ferveur. La Bible dit, si un membre souffre, alors tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. Et Romains 12, 15 nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est facile. Mais il est dit aussi, pleurez avec ceux qui pleurent. Et je crois que nous devons apprendre cela également. Il nous faut apprendre à avoir une réelle compassion pour ceux qui passent par les difficultés, afin d'apprendre véritablement à les soutenir, à les aider et à les encourager. La Bible dit qu'à ce moment-là, le corps de l'enfant a commencé à se réchauffer et que quelque chose était alors en train de se passer. Quelque chose de formidable était en train d'arriver. Mais le but n'était pas encore atteint. Et si cette femme a montré sa persévérance, cet homme de Dieu également a montré sa persévérance. Parce que la Bible nous dit que cet homme s'est arrêté à un moment donné, et il a vu que le corps de l'enfant était en train de commencer à se réchauffer. Mais ce n'était pas suffisant qu'il se réchauffe. Il fallait que l'enfant revienne à la vie. Et je crois que ce n'est pas suffisant de s'arrêter lorsque nous-mêmes, dans notre vie spirituelle, nous n'avons que quelques signes d'amélioration. Arrêtons-nous lorsque le souffle de Dieu a soufflé. Ne nous arrêtons pas lorsque quelques signes de bénédiction viennent, mais apprenons à persévérer et à aller jusqu'au bout. Persévérons, frères et sœurs, dans la prière, dans l'intercession, dans le combat spirituel, jusqu'à ce que la victoire soit totale. Et au verset 35, il dit « Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis il remonta et s'étendit de nouveau sur l'enfant, et là, la deuxième fois, l'enfant alors éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. » Alléluia. Je conclue. Qu'est-ce qui est dit? Que va faire la tsunamite à ce moment-là? La Bible nous dit, la tsunamite va se prosterner contre terre, et elle va prendre son fils, et elle va partir. Le résultat de l'action de Dieu dans notre vie doit aussi produire la même chose. Non envers les hommes, bien sûr, mais envers Dieu. Ça doit produire de la reconnaissance, ça doit produire de la louange, ça doit produire de l'adoration. Quand nous avons de belles victoires dans la prière, nous n'avons aucun mérite. Nous avons fait quelque part ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Toute la gloire lui revient. C'est lui qui est béni et c'est lui qui est glorifié. Alléluia. Alors, nous pouvons réfléchir à cette situation et réfléchir à cet état de souffrance, peut-être que quelques-uns peuvent se trouver ce matin. Rien n'est perdu. Si tu persévères, comme cette femme, si tu persévères, comme cet homme, Dieu va t'amener jusqu'au bout et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous encourage vraiment et vous aide. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence et pour ces moments. Bénissons ton nom pour ton œuvre et ton action. Seigneur, par ta parole encore, tu nous enseignes et tu nous montres de quelle manière nous devons persévérer, avancer, marcher avec toi. Seigneur, peut-être dans notre cœur, il y a de la souffrance, et peut-être que certains qui sont ici ont vécu dans le passé un certain moment, certaines souffrances qu'ils n'ont jamais exprimées. Mais nous réalisons aujourd'hui que le fait qu'ils n'aient jamais exprimé cette souffrance fait en sorte maintenant qu'ils restent dans cette souffrance. Et ils ont du mal à s'en sortir. Je te demande vraiment de continuer à parler à leur cœur ce matin. Et de faire en sorte qu'ils arrivent à parler, à discuter, à entrer en contact avec quelqu'un et qu'ils puissent tout simplement exprimer ce qu'il y a dans leur cœur et ce que les situations qu'ils ont vécues a pu produire comme souffrance afin qu'ils puissent évacuer toute cette souffrance, que la dépression et toute cette souffrance puissent partir maintenant dans le nom de Jésus et que toi tu puisses commencer à les remplir de ta consolation, de ta sérénité, de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ce baume qui guérit les cœurs et qui fait du bien. Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour ton œuvre merveilleuse et extraordinaire que tu accomplis dans nos vies. Sois béni, Seigneur. Et puis, donne de la persévérance. Donne de la persévérance à mes frères, à mes sœurs, à mes amis, à ceux qui sont là, qui entendent ta parole. Donne cette persévérance d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher, de ne pas se détacher, de ne pas s'éloigner. Mais donne-leur véritablement d'aller jusqu'au bout de leur démarche, parce que tu as prévu jusqu'au bout une victoire extraordinaire. Ne permets pas qu'ils s'arrêtent à quelques signes d'amélioration, de transformation, de changement ou de victoire, mais qu'ils aillent véritablement jusqu'au bout et jusqu'à la victoire totale et entière dans leur vie. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es avec nous, tu marches avec nous. À toi et toi seul soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.